Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, hommage et rassemblement suite à l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français. Une interview avec l'association Bug pour plusieurs événements autour du numérique et avec un esprit critique, c'est cette semaine. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage à la maison des migrations en expérimentation à l'hôtel Pasteur jusqu'en décembre. Et puis deux recommandations pour votre mardi 17 octobre. Bienvenue dans La Reine. Alors l'émission d'information locale commence chaque jour avec une info, des actions ou événements évoqués en quelques mots dans l'actualité médiatique. On écoute pour cela Corentin, il est volontaire en service civique.
Forte émotion aujourd'hui dans le pays et dans le monde enseignant. En effet, ce vendredi 13 octobre, un nouvel attentat a eu lieu contre un établissement scolaire, à quasiment 3 ans jour pour jour de l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020. C'est au collège lycée Léon Gambetta à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, que les faits se sont produits ce vendredi. Un individu s'en est pris à son ancien établissement en s'y introduisant muni de couteaux. Dominique Bernard, professeur de français dans l'établissement, a été tué en tentant de le stopper. 3 autres personnes tentant de s'interposer ont été blessées par l'assaillant. Aucun élève n'a été touché. Suite à ce drame, une minute de silence a été respectée ce lundi à 14h dans les écoles, collèges et lycées du pays. À Rennes, une cérémonie pour rendre hommage aux victimes des attentats contre l'école a eu lieu au lycée Émile Zola en présence d'Emmanuel Etis, le recteur de la région Bretagne, Philippe Gustin, préfet d'Ille-et-Vilaine. Il y avait aussi Loïc Chesnay-Girard, le président de la région, Jean-Luc Chenu, président du conseil d'Ille-et-Vilaine, et enfin Nathalie Appéré, la maire de Rennes. De nombreux rassemblements citoyens sont prévus dans le pays pour rendre hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. À Rennes, c'est le syndicat Force Ouvrière qui appelle à se rassembler à 18h, place de la République. Des rendez-vous sont également donnés à la même heure à Fougères, Redon et Saint-Malo.
Et après l'info du jour que vous venez d'entendre, c'est le moment d'une interview. Richard Delogu et Hubert Guillot, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, alors on a Richard Delogu en studio, directeur de Bug, que je vais me permettre de tutoyer parce qu'il se trouve que tu as déjà été chroniqueur à une autre époque dans cette même émission d'info locale. L'association Bug qui a plusieurs événements organisés cette semaine, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Et puis Hubert Guillot à distance via une plateforme bien connue de visioconférence. Hubert, vous êtes blogueur slash journaliste slash auteur. Et alors ça, je l'ai lu sur votre compte X, ex-Twitter, rétro-ingénieur des internets. Comment est-ce que vous expliquez ce que vous faites dans la vie?
Oui, c'est toujours difficile d'expliquer les nouveaux métiers, mais rétro-ingénieur des internets, c'est comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies numériques.
On se retrouve donc sur Zoom, Hubert Guillot. Il se trouve qu'il y a un an, vous avez publié un livre, Coincé dans Zoom, à qui profite le télétravail ? Un regard critique porté sur la visioconférence qui s'est installée durablement, en tout cas pour ceux qui y passent une partie de leur vie professionnelle, et ce, au-delà de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui vous embête chez Zoom ?
Rien m'embête chez Zoom, ou tout m'embête chez Zoom. L'enjeu, en fait, il me semble, c'est cette transformation, en fait, rapide, en 2-3 ans. Enfin, souvenez-vous, juste avant le Covid, personne n'utilisait ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est quotidien, en tout cas, pour les cadres et les CSP++. On utilise ces outils au quotidien. Qu'est-ce que ça change? C'est ça un petit peu l'enjeu. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est les transformations du travail que ça implique, en fait, derrière ces outils, et notamment la relégation de certains, et notamment de ceux qui n'ont pas les codes culturels pour être à l'aise dans ces salles de vidéo.
Le détail, il est à retrouver donc, dans un ouvrage que vous avez publié à l'automne 2022, Coincé dans Zoom, à qui profite le télétravail. Richard, je me retourne vers toi. L'association Bug, elle est passionnée par le sujet du numérique. Elle a lancé depuis la rentrée des instantanés ici à la Maison des associations. Ce sont des ateliers et rencontres mensuelles où on parle numérique, mais pas que. L'idée, c'est de parler de sujets de société. Pourquoi est-ce que vous avez lancé ce format-là ?
Parce qu'on avait, on va dire, une utilisation de notre salle d'exposition, enfin de notre salle, mais de la salle d'exposition de la Maison des Assos et donc de celle du contribuable quand même et du citoyen rennais, qui était, on va dire, sous-employée. C'est-à-dire qu'on avait des moments d'exposition hein, qui couvrent la quasi-intégralité de l'année, mais on souhaitait ouvrir en fait cette salle à d'autres. Voilà, donc ça c'était la première idée, donc d'ouvrir à d'autres associations. Ça a été le cas avec, par exemple, très récemment, la projection du film documentaire Rupture d'Arthur Gosset. Et puis, la semaine dernière, l'association de Nathalie Georges, Animal Debout. Voilà, donc ça c'est vraiment des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec, avec le numérique. Et nous, on y propose également des événements sur le numérique avec des choses parfois très techniques. Hein, la présentation d'un CMS sobre, c'est-à-dire d'un gestionnaire de contenu de site internet, qui développe des sites internet qui consomment moins d'énergie que ceux auxquels on a recours habituellement. Et puis, en effet, la semaine qui s'annonce là, sur l'intelligence artificielle ou la stupidité artificielle.
Alors ça, on verra la conclusion. Cet atelier, il a lieu mardi 17 octobre à partir de 18h30, donc ici à la Maison des Associations en plein cœur de Rennes, à deux pas du métro Charles de Gaulle, pour bien se situer, avec un atelier proposé sur l'IA, l'intelligence artificielle, un sujet sur lequel tout le monde a un avis là depuis quelques mois, parfois enthousiaste, souvent inquiet, qu'on résume peut-être trop au cas ChatGPT dans les médias dominants.
Oui, c'est facile. C'est un peu comme l'imprimante 3D au moment de l'émergence des Fab Labs, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se réfère à une espèce d'artefact comme ça qui va incarner en fait toute cette dynamique, ou pas d'ailleurs. Et là, c'est ChatGPT. Après, il y a une multitude d'IA, enfin d'outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés quotidiennement, parfois avec un usage extrêmement professionnel ou exclusivement professionnel, et d'autres avec des applications plus citoyennes ou supposées. Voilà, donc il y a une diversité énorme de ces outils. Nous, très modestement, on en fait juste une présentation auprès des associations de manière à ce qu'elles soient un peu acculturées sur le sujet. Voilà, d'une autre manière que celle qui est actuellement véhiculée par les médias. C'est-à-dire avoir une approche assez neutre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on estime comme étant potentiellement intéressantes. Et d'autres qui sont, pour le coup, on trouve très dangereuses. Et puis, il y a des impacts aussi, les impacts sur la véracité de l'information, vérification de l'information, sur la propriété intellectuelle, sur la sobriété énergétique, ou pas, enfin surtout pas d'ailleurs, de l'IA. Enfin, il y a une multitude d'impacts, un impact juridique également hein, sur la protection des données, enfin bon, il y a des multiples, et sociétaux aussi, sur l'impact sur l'emploi, enfin bon, bref, c'est quand même extrêmement conséquent. Donc voilà, on évoquera juste, sans malheureusement pouvoir approfondir tous ces sujets.
Au-delà de ChatGPT, vous présenterez aussi les outils Midjourney ou encore Firefly qui sont là plutôt des générateurs d'images à partir de descriptions un peu textuelles, avec le deuxième Firefly qui est sous la licence Adobe. Peut-être juste une autre question sur le sujet de l'intelligence artificielle pour Hubert Guillot. Est-ce qu'on a des éléments pour comprendre l'absence de régulation, notamment politique, sur le sujet ? Alors là, on l'a vu un peu avec Richard, on anticipe peut-être plus que sur la fraude aux examens étudiants qui est peut-être finalement un petit peu anecdotique à mon goût. On imagine des impacts importants sur plein de métiers, par exemple le mien, moi j'y pense. Comment est-ce qu'on explique qu'il n'y a pas de régulation, là, en tout cas à l'heure où on se parle ?
Alors en fait, il y en a plein qui sont prévus, hein, entre le règlement sur l'IA de l'Europe, le DSA, le DMA, enfin vous avez énormément de régulations qui sont en cours de discussion. Le problème, c'est le temps qu'elles mettent à arriver et en fait la complexité des débats et des modalités en fait. Il y a des demandes en justice, par exemple, de la part d'auteurs pour attaquer le fait que ChatGPT et les autres grands modèles de langage aient utilisé des contenus sous licence, des livres par exemple, etc. Il y a des grands auteurs comme George R. Martin qui portent plainte contre ChatGPT. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas d'actions. Le problème en fait, c'est quel niveau d'intervention est-ce qu'il faut regarder les choses. L'une des plus intéressantes, il me semble, qu'on a vu récemment, c'est celle des scénaristes en fait américains, qui, je vous rappelle, ont fait cinq mois de grève aux États-Unis pour avoir de meilleures conditions de travail. Et l'un des enjeux portait justement sur la régulation de l'intelligence artificielle. Ils ont obtenu quelque chose assez léger, mais qui leur permet en fait de rester maître des choses, c'est-à-dire de pouvoir imposer aux studios que si les intelligences artificielles sont utilisées, elles seront pas créditées et ça diminuera pas les rémunérations. Voilà. Donc il y a des tas de choses qui se font, mais les régulations, ce ne sont pas des entités qui prennent des décisions, c'est une société en discussion.
Le deuxième événement de la semaine, là, après cet atelier du mardi sur l'intelligence artificielle, c'est un traditionnel marathon créatif organisé par l'association Bug, qui prend différents noms selon les événements. Le dernier, c'était bien au mois de mai, Richard, sur le thème du logement, non ?
Oui, tout à fait.
Là, il s'agit de réparer Parcoursup. C'est le thème pour cette édition du marathon créatif qui aura lieu les 19 et 20 octobre, toujours ici à la Maison des Associations. On commence par dire qu'on peut toujours s'inscrire, ça c'est chouette.
Oui, il reste 2-3 places encore.
Pour s'inscrire, ça se passe sur le site internet réparer-parcoursup.io. Et alors Parcoursup, pour ceux qui sont passés à côté, c'est cette plateforme qui permet d'orienter les lycéens vers leur futur établissement d'enseignement supérieur. Une plateforme qui a été lancée en 2018 suite à APB. Moi, j'étais sous l'ère APB, admission post-bac. Et il se trouve que Parcoursup est critiqué négativement depuis à peu près le début par à la fois des enseignants, des syndicats, mais aussi des chercheurs ou encore des élèves. Pourquoi est-ce que Parcoursup a besoin d'être réparé, Hubert Guillot ?
Plein de raisons, en fait. Je pense qu'il y a un niveau d'insatisfaction qu'on mesure assez mal du fait de la communication qu'il y a autour de Parcoursup. Aujourd'hui, quand on regarde à la fin de la session Parcoursup, on nous dit que, grosso modo, il y aurait seulement 10 ou 20 000 étudiants qui n'auraient pas eu satisfaction de leurs vœux sur les 900 000 élèves qui participent de la plateforme. En fait, quand on regarde ces chiffres, on peut tout le monde les modérer un petit peu. Grosso modo, selon les estimations différentes, le nombre en fait serait bien supérieur à celui-ci de gens qui quittent la plateforme sans qu'on sache où ils vont, s'ils vont trouver une autre solution ailleurs ou s'ils n'en ont pas. Et en plus, si on ajoute tous ceux qui chaque année sont en réorientation, en reprise d'études ou ont des difficultés, les hors calcul comme on les appelle, on monte très vite à 39% voire 40% d'élèves qui, au moins d'après les chiffres, peuvent être en difficulté et en insatisfaction chronique. Donc, pour une plateforme qui est censée mettre tous les élèves dans des bonnes cases des formations, 40% de difficulté, en tout cas, c'est pas un très bon score.
Pour compléter, au-delà donc parfois de l'attente, des listes d'attente qui peuvent être difficiles à vivre pour les étudiants, on constate aussi une sélection de plus en plus forte, des algorithmes pas très transparents. Et donc là, en fin de semaine, des étudiants, des développeurs, des professionnels de l'orientation, mais aussi des parents d'élèves ou encore des curieux vont se mettre autour de la table dans l'objectif d'améliorer Parcoursup. C'est quoi votre rôle à vous là-dedans, Hubert Guillot ? Vous êtes un peu là avec un rôle d'expert qui a un regard extérieur sur ces sujets-là ?
Oui, le facilitateur d'une certaine manière. Enfin, je me suis beaucoup intéressé au fonctionnement de Parcoursup. Donc, je pense en fait les gens aujourd'hui comprennent assez mal son fonctionnement précis, ce qu'il permet, ce qu'il ne permet pas, comment on s'y projette. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail d'explication un petit peu à faire sur comment ça fonctionne et pourquoi ça dysfonctionne et auprès de qui ça dysfonctionne. Et puis, il y a un second travail à faire où là aussi, je viens avec des idées et j'espère qu'elles seront encouragées et dépassées par les participants de qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer, de réparer, de prendre soin des gens qui sont aujourd'hui ou qui seront demain coincés dans Parcoursup. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la plateforme ? Je tiens juste à rappeler que depuis l'origine, en fait, depuis même APB et même Parcoursup, depuis les réformes continues qu'on a sur le baccalauréat, les usagers, les citoyens, les élèves, les parents d'élèves n'ont jamais été invités à discuter des orientations qui sont prises par ces systèmes, en fait. Mmh. Nous, très modestement, en tout cas, on voudrait bien commencer à relancer ce débat, à impliquer les gens dans ce qui se passe autour de Parcoursup.
Richard Delogu, sur les publics visés lors de ce marathon créatif, ils sont très variés. On sait que ces événements attirent souvent notamment des développeurs. Est-ce que c'est facile de faire venir les parents d'élèves, les agents territoriaux? C'est facile d'avoir un public mixte sur ces événements?
Non, pas vraiment. En fait, il a fallu vraiment déjà qu'on travaille bien en amont de cet événement, puisque Hubert pourra en témoigner, mais je crois que ça fait plus d'un an qu'on discute au moins de l'organisation de cet événement. C'est pas facile parce que c'est un sujet ultra technique. Et souvent les participants, lorsqu'on les appelle et qu'on les sollicite pour y participer, nous disent « Ah oui, mais moi j'y comprends rien, je suis pas informaticien, etc. » Alors que le sujet, il est certes technique parce que le diable se cache dans les détails, mais aussi il y a tout le volet, je dirais, d'accompagnement des usages sur ces questions, puis qui posent de grandes questions, hein, parce qu'il n'y a pas seulement Parcoursup. Il faut savoir, en amont, il y a toutes les applications qui sont utilisées. Je pense à Pronote, par exemple, au collège et à son équivalent dans le monde de l'enseignement privé. Et ensuite, mon master, hein, qui a été mis en œuvre cette année, visiblement, qui est quand même aussi très critiqué. La question de la critique, elle est bonne, parce que... Qu'est-ce qu'on est en mesure de mettre en place ou de proposer comme alternative? Bon, on ne sait pas, en fait. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça produit des biais, c'est-à-dire que ça, y a des conséquences qui sont assez néfastes sur une partie de la population, et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour accompagner ce mouvement. Et là, pour le coup, on peut solliciter des gens qui sont plutôt dans l'accompagnement des populations et du public. Voilà, on peut solliciter également des créatifs, on peut solliciter des équipements culturels qui seraient en mesure d'accueillir justement des journées de conseil, par exemple des parents, les associations de parents d'élèves, évidemment, malgré le fait que les parents se trouvent souvent pas légitimes, en fait, d'aller discuter d'un sujet aussi compliqué, et finalement sont dans une forme, je trouve, sont un peu désabusés, en fait, à l'égard de ces usages, ouais, de fatalisme, alors que ça produit quand même énormément d'effets néfastes chez une partie de la population qui ne s'y retrouve pas, et beaucoup de stress, en tout cas, chez les élèves, et ce, dès la troisième, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit dès la troisième aux élèves, attention dans le choix des orientations, parce que ça va avoir une conséquence et un impact sur Parcoursup et les études supérieures. Alors, je trouve que c'est quand même assez... On a le devoir, entre guillemets, en tant que citoyen, de s'y pencher un peu pour voir comment on peut s'y impliquer et éventuellement mieux accompagner en effet les usagers.
Il faut préciser que Parcoursup, depuis son lancement en 2018, est un outil qui évolue en permanence. Du côté du gouvernement, on nous dit que ça s'affine, qu'aujourd'hui 93,5% des bacheliers ont reçu au moins une proposition, que la phase d'admission s'est raccourcie et que 76% des candidats sont satisfaits. Est-ce qu'on peut terminer, Hubert Guillot, sur le premier truc qu'il faudrait changer sur Parcoursup? Ça se joue à quel niveau dans la plateforme?
Oh, il y en a plein, mais je vais vous en citer un exemple. Aujourd'hui, dans Parcoursup, les élèves rédigent des millions de lettres de motivation qui sont la plupart du temps pas lues par le système, parce que pas critérisées par le système, donc qui ne servent juste à ajuster les classements entre deux élèves. Et pourquoi aujourd'hui est-ce que les élèves ne peuvent pas avoir, par exemple, des points sur une formation qui les intéresse vraiment, sur laquelle ils sont vraiment motivés? Le fait qu'une plateforme de sélection nationale ne laisse pas vraiment de place techniquement à la motivation me semble vraiment un gros problème de cette plateforme.
Je vous représente tous les deux, Richard Delogu, donc directeur de l'association Rennaise Bug, et Hubert Guillot, à la fois blogueur, journaliste et auteur, qui participe donc à ce marathon créatif des 19 et 20 octobre qui a lieu ici à la Maison des Associations à Rennes. Il reste encore quelques places si vous souhaitez vous inscrire, auditeur. Ça se passe sur le site réparer-parcoursup.io. C'est un événement à retrouver aussi sur le site de la Maison des Associations, sur les réseaux sociaux de Bug, et qui à chaque fois est ensuite détaillé sur la page Wiki Rennes. Merci beaucoup.
Merci. Underneath that big marble arch.
love in the sun in a burgeoning community. Any given Saturday in Washington Square Park. Tons of bros from the local university. I'm listening to these Zoomers play down in the basement of Cafe One. They're trying to make it sound like Stevie Ray. And then they set fire to Jimi Hendrix's guitar.
Jonathan Wilson, The Village is Dead. C'est le choix musical de Richard de l'association Bug qu'on vient de recevoir en studio. Un morceau à retrouver sur l'album Eat the Worm qui est sorti le 8 septembre chez BMG. Un 13 titres rock qui constitue le 5e album studio pour ce musicien et producteur américain. Vous êtes en train d'écouter L'Arène, c'est l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0, mais vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur canalb.fr où sont disponibles en podcast l'ensemble des émissions réalisées par les salariés mais aussi par les bénévoles. On continue cette émission avec un reportage. Un reportage réalisé au premier étage de l'hôtel Pasteur à Rennes qui accueille jusqu'en décembre la Maison des Migrations, aussi appelée MAMI, un projet de lieu interassociatif pour les personnes exilées, les professionnels, les étudiants et les habitants, et qui vit donc en ce moment une phase d'expérimentation en attendant de trouver un lieu pérenne. Parmi les temps forts à venir, des portes ouvertes seront organisées samedi prochain, le 21 octobre de 14h à 20h. C'est un projet à suivre sur les réseaux sociaux et à découvrir maintenant avec la voix de Gaëlle Rouget, coordinatrice, et Jigel, exilé congolais.
Je lis cette phrase alors dans le livre de Mara intitulé « Femme d'Alep ». C'est un livre qui a été écrit avec Ismaël Dupont. Tu dis la familiarisation, alors c'est le témoignage de plusieurs femmes syriennes dans le livre. La familiarisation avec la langue française n'a pas été aisée pour moi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, mais si je peux juste revenir un petit peu
au
premier épisode en Syrie, parce que je suis aussi un cas particulier.
Bonjour, moi c'est Gaëlle, donc je suis responsable à la MAMI, le nom de l'association, qui pilote le projet de la Maison des Migrations, qui est un titre provisoire pour un projet sur lequel on réfléchit depuis 2 ans. Et la MAMI, c'est une association qui a été créée l'année dernière, en juillet 2022. Alors l'histoire, enfin la genèse du projet, elle est un petit peu longue. Au tout début, en fait, on a créé en 2019 une cantine multiculturelle et solidaire avec un collectif au sein d'une association qui s'appelle DIDA. On s'est rendu compte, du coup, à travers cette expérience, que de proposer des espaces d'engagement pour des personnes qui étaient, par exemple, en cours de demande d'asile, ben, c'était très valorisant. Ça a vraiment permis de travailler le faire ensemble, l'organisation collective aussi, du coup, le sentiment d'appartenance. Et en fait, ben, on a vu le résultat sur des potes qui s'étaient mis en confiance grâce à ce support collectif, quoi. Et de ça, en fait, on s'est dit, bon, ben, quitte à faire une cuisine, on va faire une maison. voilà, dans cette idée de vraiment de valoriser les compétences des personnes, parce que les personnes exilées, c'est avant tout des humains qui ont des compétences, des savoir-faire, des rêves, et voilà, avec qui c'est super agréable de partager et d'échanger, quoi.
Quels acteurs identifiés sur ces thèmes-là est-ce qu'on retrouve investis dans la maison des migrations aujourd'hui ? J'ai cru croiser du monde de chez Cœur Résistant, notamment.
Ouais, exactement. Du coup, le projet, là, depuis 2 ans, bah, il s'est structuré. Enfin, on a vraiment eu une phase de réflexion. Voilà, qu'est-ce que ça va être ? En allant regarder aussi sur des projets qui existent sur le territoire national. Et puis en allant interroger aussi beaucoup de partenaires, de personnes concernées, etc. On a fait un diagnostic de territoire sur Rennes qui a révélé, bon, comme d'autres diagnostics l'ont fait, hein, qu'il y avait un fort maillage associatif. Il y avait plein de services en fait qui existent sur le territoire de Rennes, mais que ça reste très fragmenté. Et du coup, ça crée des informations qui sont compliquées à avoir pour les personnes, des parcours du coup aléatoires, fragmentés, et puis aussi de la part des acteurs, un manque d'interconnaissance et du coup vraiment un besoin d'avoir un lieu en fait qui soit référent où on puisse à la fois concentrer les informations mais aussi les diffuser à la fois pour les personnes exilées mais aussi pour les professionnels bénévoles aussi très investis et puis n'importe quel citoyen en fait qui peut aussi être amené à être confronté à des situations où il n'a pas forcément les réponses. Et donc toute cette construction elle s'est faite en fédérant des partenaires autour du projet parce que le projet de la maison des migrations, hein, qui s'appelle comme ça maintenant, mais qui s'appellera autrement quand on aura trouvé le lieu, c'est vraiment de construire comme une grosse coloc associative. Donc, en fait, voilà, on a construit des moments à la fois avec les personnes exilées, mais aussi avec les partenaires associatifs, de réflexion, etc. Ce qui nous a amené à avoir envie d'expérimenter le projet concrètement. Donc, on est à Pasteur, parce que c'est un des partenaires historiques de la MAMI. Et là, en fait, il y a 12 associations qui roulent, en fait, enfin, qui proposent des permanences, des activités, des ateliers, voilà, sur différents champs. Donc, effectivement, vous avez vu Hélène de Cœur Résistant. Là, aujourd'hui, ils viennent en permanence. Il y a des permanences juridiques avec le MRAP, des permanences administratives avec Saint-Benoît-Labre. Il y a des ateliers de langue et communication qui se font ici. Il y a la PEOL aussi qui vient faire des entretiens. Il y a des partenaires aussi qui sont là parce qu'en fait, un des objectifs aussi de ce lieu, c'est que vraiment n'importe qui a un besoin, en fait, qui se pose une question, qu'elle soit juridique, administrative ou juste j'ai besoin de me poser ici, j'ai juste envie de prendre un café ou de parler français, etc. N'importe qui peut venir ici, on l'accueille et on essaie de l'orienter au mieux. Et donc, il y a d'autres associations comme Bienvenue, comme il y a aussi J'accueille qui fait des permanences aussi et qui fait aussi des temps d'accueil. Et il y a Bulle de Français, donc j'espère que je n'en ai pas oublié. Puis il y a d'autres associations aussi avec qui, par exemple aujourd'hui la Balade des Livres, on s'associe avec eux pour créer des événements. Là aujourd'hui, donc il y a une rencontre à 15h avec des écrivaines exilées, mais il y a aussi une projection le 9 novembre avec, dans le cadre du festival alimentaire prévu avec Exilem. Voilà, il y a la LDH aussi, enfin oui, qui vient faire d'ailleurs des permanences aussi. On est en lien en fait, et ça permet vraiment une synergie assez incroyable. Et de se connaître aussi mieux, parce qu'en fait, on est sur le même lieu, quoi.
Voilà. LDH, c'est la Ligue des droits de l'homme. La plus grosse carence sur le sujet de la vie des personnes exilées à Rennes, particulièrement médiatisée en ce moment, c'est la carence en logement, qui semble être le besoin primaire pour les personnes exilées, avec un campement en ce moment dans le parc de Morpa à Rennes et des occupations de lieux pour rendre un peu public et visible cette problématique-là. C'est pas la vocation de la MAMI de répondre aux questions de logement.
On n'est pas une structure d'hébergement. On travaille avec des structures d'hébergement. On travaille avec Saint-Benoît-Labre, mais on travaille aussi avec J'accueille, par exemple, qui fait de l'hébergement solidaire pour les personnes réfugiées. On est en partenariat avec Utopia 56, avec plusieurs assos aussi sur le territoire qui travaillent ces questions-là. Après, la question de l'hébergement, c'est une question qui est une compétence d'État. Et du coup, c'est un savoir-faire voilà, qui est particulier. Et après, la mairie de Rennes s'en empare également. Mais voilà, la mamie n'a pas vocation, en tout cas, à créer un centre d'hébergement. Il y a des lieux à Paris qui le font, par exemple, qui créent des espaces avec centre d'hébergement. Mais nous, ça nous pose un petit peu problème, dans la mesure où on considère que un lieu de vie où on peut être amené à faire des événements festifs et culturels, parce que c'est aussi ça le projet de la mamie, c'est vraiment d'avoir dans le volet lien social, il y a vraiment cette volonté d'avoir un espace de restauration, un espace aussi où on puisse créer des événements festifs et culturels. Et un lieu comme ça, c'est pas spécialement compatible avec un lieu de vie, où on vit vraiment, où on est hébergé, où on a besoin de tranquillité. Pour nous, c'est vraiment des lieux différents.
La maison des migrations, c'est un projet alors qui, là, dans sa phase expérimentale, vit notamment grâce au budget participatif, je dis pas de bêtises, en partie. Alors...
En partie, oui. On a effectivement eu le budget participatif, merci, du département. Mais c'est un budget qui n'est fléché que sur de l'investissement. Du coup, pour tout ce qui est fonctionnement, là, en fait, nos soutiens, c'est la ville de Rennes, Rennes Métropole, le département aussi, parce qu'on fait vraiment partie aussi de l'écosystème ESS, donc on a été incubé à TAG, on a été porté par une structure, un tiers-lieu aussi qui s'appelle ESS Cargo et compagnie, à Villejean. Et
la Fondation Abbé Pierre.
Et la Fondation Abbé Pierre. Le fonds FIL aussi, avec la Fondation Bruno.
ESS pour économie sociale et solidaire et TAG, c'est donc un incubateur qui est installé dans le quartier du Blône au sein du bâtiment du Quadri et qui accompagne dans le développement des projets qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. Là, on se retrouve au moment de l'expérimentation qui vient de débuter, qui se poursuit jusqu'en décembre. Et après, donc vous êtes dans la recherche d'un local en fait en ce moment grand.
Oui, on est là pour 3 mois. C'est vraiment pour tester le fonctionnement collectif, mettre une première pierre, montrer ce dont on a envie.
Et sur le futur, il faudra 400 mètres carrés, un lieu placé dans Rennes. Non, c'est ça les objectifs.
On est plus sur du 800 mètres carrés quand même. En faisant le calcul de tous les besoins, on est plutôt sur du 800 mètres carrés, ce qui correspond un peu à l'enveloppe de mètres carrés de plusieurs lieux, en tout cas assez similaires. Ce serait effectivement plus pertinent que ce soit accessible. On est en relation avec les collectivités territoriales, mais aussi avec quelques agences privées. Et puis c'est aussi pour ça qu'en fait on est sur une expérimentation de 3 mois. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps en fait de tirer les conclusions de cette expérience, et puis en fonction des conclusions aussi de pouvoir prendre le temps de bien finir la construction du projet, l'étude de faisabilité en fait.
À terme, vous aimeriez salarier plusieurs personnes sur le projet et puis donc proposer des choses sur différents volets, un volet social, un volet culturel, un volet entrepreneurial et d'insertion et un dernier volet écologique.
Et du coup, par rapport à l'équipe, effectivement, là on est bientôt 2 salariés, il y a deux services civiques, il y a des bénévoles aussi.
Est-ce qu'il y a des temps forts à annoncer dans les semaines à venir, et notamment le temps d'inauguration ?
Oui, donc samedi 21 octobre, à partir de 14h jusqu'à 20h, on fait vraiment des portes ouvertes. Donc on va pouvoir vous inviter dans notre maison pour vous montrer un peu tout ce qu'on a installé. Et puis il y aura certains des partenaires qui seront présents aussi pour expliquer leur domaine d'activité. Voilà, et puis il y aura un atelier cuisine aussi, puis une exposition à venir voir, 2 expositions du coup à venir voir tout le mois d'octobre pour Confidence et Cerise sur le gâteau. Et puis Gigel, il est là aussi tout le mois d'octobre, et puis il est là de toute façon en résidence tous les jours, donc vous pouvez venir admirer en direct 16 heures. Dans les autres événements, on a une table ronde aussi avec des étudiants qui travaillent sur les questions concernant l'exil. Il faut se tenir en fait au courant sur Instagram. On poste régulièrement des infos, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on aura un temps fort aussi de sortie de résidence, enfin d'expérimentation, le 8 et 9 décembre.
C'est facile pour moi, j'ai publié son point et le baguette, s'il vous plaît. Mais pour rentrer, la queue là, j'arrive, le baguette, s'il vous plaît. Mais vous, depuis 100 ans. Ah.
Je m'appelle Jigué Timba Mokongo. Je suis Congolais. Je suis né à République démocratique du Congo. Je suis artiste peintre, mais je ne fais pas seulement de la peinture. En général, je suis artiste peintre, graphiste et plasticien.
Ok.
C'est ça. J'ai fait la peinture, céramique, sculpture, l'animation 3D, 2D. Okay. Voire même les affiches, les montages vidéo, tout comme ça.
Est-ce que je peux vous demander quand est-ce que vous êtes arrivé à Rennes?
J'étais arrivé ici le 1er janvier 2023. Malgré ça, mais j'ai parvenu à m'adapter dans l'environnement, à bien connaître comment la Rennes marche. Je suis heureux d'être ici. Mon jumeau, il est réfugié ici en France, précisément à Rennes, depuis 2017. Il a le statut de réfugié. Donc, j'ai vu chez mon frère.
Et vous avez pu faire une demande d'asile et...
Oui, j'avais fait une demande d'asile. Moi-même, je suis convoqué à l'OFRA. Je crois que le mois prochain, je dois aller là-bas.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a poussé à partir et à venir ici? Vous pouvez me dire non. Des fois, quand c'est douloureux, on n'est pas obligé d'en parler.
Je suis obligé parce que j'ai besoin aussi que ça puisse être médiatisé pour que tout le monde puisse sachent pourquoi je suis venu ici. J'ai fui mon pays parce qu'il y avait plein de choses qui étaient arrivées dans ma vie. C'est mon talent qui m'a poussé à être ici. On dit l'artiste est là pour mettre la paix dans le pays, pour aussi éduquer toute une nation grâce à mes œuvres. On dit l'art en général peut aussi changer toute une nation. Moi, dans mon pays, je croyais que c'est un pays droit de l'homme. Je me suis fait tromper. Droit de l'homme dans mon pays, ça n'existait pas. Si réellement ça existait, j'allais pas être ici.
Depuis que vous êtes arrivé au début de l'année, à quel moment vous avez découvert l'hôtel Pasteur, la maison d'émigration pour laquelle vous êtes bénévole aujourd'hui?
Oui. C'était les mois passés. Avant d'être ici, j'étais dans une autre association, association qu'on appelle Coupé Décalé. C'est par là que j'avais commencé à faire mes œuvres d'art. J'ai fait d'autres styles. Mes œuvres sont mélangées, culture africaine et culture européenne en même temps.
Vous avez quel âge? Je ne vous ai pas demandé.
Je suis 35 ans.
Il y a beaucoup de peintures que vous avez réalisées autour de nous qui sont regroupées dans une exposition. Des peintures pour un peu essayer d'expliquer aux auditeurs qui sont très colorées, où on voit beaucoup de visages, il y a des explosions de couleurs et puis aussi plein d'évocations de la nature, même de la vie animale aussi.
Il y a les tableaux là, qui est là-bas, la femme. La femme, elle est en sept. Dans son ventre, j'ai mis la tarse du monde. La femme, en général, elle supporte tous nos fardeaux, toutes nos souffrances que nous on est tenté de vivre sur la terre. La femme supporte ça.
Vous vous sentez comment quand vous peignez?
Si par contre je reste bras croisés, ça peigner, c'est comme si je risque de tomber malade. Donc, parce que l'art d'abord, quand j'ai peint, donc ça m'aide de ne pas beaucoup penser des choses vécues dans ma vie. Donc c'est comme si l'art me libère l'esprit. Donc c'est comme si je suis condamné à peindre tous les jours pour que je puisse me sentir plus mieux.
Là, ça fait 20 ans que je suis en France. Je ne suis pas à l'aise de parler avec les inconnus parce que tout de suite, ah, votre accent, madame. Donc je sens toujours que je ne suis pas à l'auteur des Français.
Thank you.
Laurence Anne et son morceau Fantôme sur Canal B. C'est une nouveauté musicale, ça veut dire qu'elle a été sélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur, rien que pour vous. Et c'est un titre à retrouver sur un album Oniromancie qui est sorti le 8 septembre chez Bon Sound. C'est le troisième disque pour cette musicienne et chanteuse québécoise. La Reine, l'émission d'info locale de Canal B suit son cours tranquillement. Je le dis régulièrement, auditeurs, si vous avez une action ou un événement à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec votre association ou autre type de structure, dans des champs très vastes, hein, vie associative, soutien aux personnes exilées, action environnementale, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reprends contact avec vous pour vous proposer une rencontre ici, en studio, pourquoi pas un reportage sur le terrain, ou bien d'en parler sous forme de recommandation du jour, et c'est l'heure. Et oui, tous les jours, on termine avec des recommandations de choses à lire, à écouter, à voir ou à vivre. On commence d'abord avec un événement d'ATD Carmonde, la journée mondiale du refus de la misère, qui va prendre la forme de deux actions mardi 17 octobre. D'abord, de 14h à 16h, rendez-vous sur la place Hoche à Rennes pour plusieurs prises de parole et témoignages sur le thème « Ensemble, faisons du travail décent un bien commun ». Alors que les questions de travail, d'emploi décent et de protection sociale sont au cœur de l'actualité. Puis le même jour, de 18h à 20h, cette fois rendez-vous à la maison de quartier Villejean pour une réflexion sur la résistance comme combat pour une vie digne. Des échos d'un séminaire de philosophie sociale qui a été organisé par l'association ATD Carmonde durant 3 ans, en compagnie d'universitaires, de militants et de personnes engagées aux côtés des plus pauvres. Et puis pour les fans d'histoire, deuxième conseil du jour, mardi soir à 18h, j'ai en effet noté une table ronde organisée à l'occasion des 30 ans de la collection Histoire des Purs, les presses universitaires de Rennes. Cet éditeur, dont on reçoit régulièrement des auteurs dans l'émission La Rennes, est installé sur le campus de l'université Rennes 2 et la collection Histoire est un peu son vaisseau amiral. Une collection qui a donc été créée en 1993, si on fait le calcul, par l'équipe des historiens et des historiennes de l'université Rennes 2. Elle comprend aujourd'hui 1200 titres, cette collection, et puis 7 séries qui en font l'un des lieux éditoriaux les plus reconnus de la recherche historique francophone. La table ronde de mardi, elle réunira à partir de 18h, donc, dans l'amphithéâtre du pôle numérique à Rennes-Villejean, les anciens mais aussi les actuels directeurs de cette collection, et c'est gratuit. La Reine, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.